VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. En Somalie, le nouveau président Mohamed Abdoulaye Mohamed doit prêter serment aujourd'hui à l'aéroport de Mogadiscio. L'endroit le plus sécurisé de la capitale où s'est déroulée son élection le 8 février pour prévenir une attaque des islamistes Shebab qui ont promis de lui mener une guerre sans merci. Conséquence, Mogadiscio est à nouveau paralysé ce mercredi par de fortes mesures de sécurité pour l'investiture du nouveau président. En Afrique du Sud, la Haute Cour de justice a jugé ce mercredi contraire à la Constitution la décision du gouvernement de se retirer de la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye. Pretoria a notifié la CPI en octobre de sa décision de cesser d'y siéger, estimant que sa présence était incompatible avec la législation sud-africaine. L'Alliance démocratique d'opposition avait déposé un recours contre cette décision et c'est sur ce recours que la Haute Cour de justice s'est prononcée ce mercredi. On ignore pour l'instant si le gouvernement sud-africain entend faire appel de cette décision. Amnesty International dresse un tableau sombre sur la situation des droits de l'homme dans le monde en 2016. La directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Samira Daoud, nous situe sur la situation en Afrique dans ce domaine.
Précisément en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous avons vécu une année où des gouvernements ont montré une réelle volonté de réprimer de manière assez régulière et assez systématique les différentes formes de liberté, que ce soit liberté d'expression, liberté de manifestation, etc., y compris dans des pays qui sont considérés comme des pays plutôt démocratiques ou en tout cas qui ont montré des progrès et des alternances politiques relativement pacifiques. Dans ces pays, dans quasiment chaque pays de la région, nous avons vu des manifestations qui ont été interdites en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, etc., ou qui ont été réprimées avec parfois des morts. Le Burundi, évidemment, avec la situation extrême qui a prévalu suite aux tensions qui entouraient la question du troisième mandat, une répression féroce qui s'est abattue sur l'opposition, sur la société civile et sur les journalistes également, et malheureusement une situation extrêmement tendue avec par ailleurs le Burundi qui s'est retiré de la CPI, donc avec des chances très minces pour les Burundais qui ont été victimes des violations de pouvoir obtenir justice un jour.
Samira Daoud d'Amnesty International. Les retombées en Afrique, des nouvelles mesures américaines sur l'immigration maintenant, un véritable casse-tête pour les ambassades africaines aux États-Unis. Dans deux directives, le secrétaire américain à la sécurité intérieure John Kelly a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration d'expulser aussi rapidement que possible tous les clandestins qu'ils trouveraient dans l'exercice de leurs fonctions. Une note qui inquiète dans les milieux d'immigrés africains ici aux États-Unis. Écoutez la réaction de Tiena Koulibaly, l'ambassadeur du Mali à Washington.
L'administration américaine aujourd'hui est dans une phase de transition, c'est-à-dire que ceux avec qui nous parlons, aussi bien au département d'État qu'au ministère du Homeland Security, que j'appelle ministère de l'Intérieur, ce sont ces gens-là qui gèrent les déportations. Les cas américains que nous rencontrons à ce niveau-là sont eux-mêmes un peu dans l'incertitude. Voilà. Et donc, eux et nous discutons de notre volonté à nous qu'ils tolèrent nos concitoyens et leur totale incapacité vis-à-vis des nouvelles mesures venant des nouvelles autorités qu'eux-mêmes découvrent en même temps que nous tous. Alors donc, nous sommes vraiment dans une phase d'expectative pour tout le monde et j'espère seulement que l'Amérique est aussi le pays de la loi, c'est le pays du règne de la loi, c'est le pays du règne de la tolérance. Donc nous croisons les doigts, nous attendons, mais évidemment nous sommes très très très, très inquiet pour nos populations.
Tiena Koulibaly, l'ambassadeur du Mali à Washington, était joint par Bagassi Koura. Le Nigeria cherche à rassurer la population sur l'état de santé du président Muhammadu Buhari, dont le séjour en Grande-Bretagne pour raison médicale a été prolongé. Les autorités nigériennes affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Jacques Aristide.
Cela fait plus d'un mois que le président Buhari se trouve à Londres. Au Nigeria, son absence, qui devait à l'origine durer une dizaine de jours, provoque des doutes sur sa santé et alimente les craintes d'une crise politique.
Afrique.
Mais pour son porte-parole, il ne s'agit que d'un repos médical. Femi Adesina a indiqué hier à Abuja que le chef de l'État avait besoin d'une plus longue période pour récupérer, telle que recommandée à la lumière des examens médicaux, et d'assurer que cette prolongation ne doit inspirer au peuple nigérian aucune raison d'inquiétude, sans toutefois préciser quand le président sera de retour. En attendant, l'ancien général de 74 ans a transmis les rênes du pouvoir au vice-président Yemi Osinbajo dans un pays où prévaut en ce moment un climat national tendu, marqué par une grave récession économique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest toujours, malgré la récente visite du ministre sénégalais de la Pêche à Nouakchott, la Mauritanie refuse toujours de renouveler les licences de pêche pour des centaines de pêcheurs de Saint-Louis dans le nord du Sénégal. Résultat, Dakar demande aux pêcheurs sénégalais de rentrer en attendant de trouver une solution avec Nouakchott. Mais l'économie locale risque d'en souffrir énormément car beaucoup de pêcheurs sénégalais estiment que les côtes du Sénégal ne sont plus poissonneuses et qu'ils se sont donc obligés de migrer en Mauritanie pour soutenir leur famille. Abdourahmane Dia a joint à Saint-Louis au Sénégal le journaliste Moussa Diagne.
Les pêcheurs présentement traversent des moments très 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 difficiles parce que vous savez bien que la pêche ici à Saint-Louis représente au moins 90% de l'activité économique et donc nous vivons à partir de la pêche. Si le commerce marche très bien, c'est parce que la pêche marche bien. La pêche est devenue donc une des choses incontournables ici dans la ville de Saint-Louis. Donc ici, depuis quelque temps, les pêcheurs de la langue de Barbarie traversent des moments très 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 difficile parce qu'ils ne peuvent plus vraiment accéder dans la zone sénégalo-mauritanienne parce qu'ils n'ont plus de licence de pêche depuis maintenant un an.
Et qu'est-ce qui explique ce blocage? Pourquoi la Mauritanie n'a pas renouvelé les licences de pêche pour les pêcheurs de Saint-Louis?
Le gouvernement mauritanien n'a pas donné exactement une réponse juste à cela. Mais ici, au niveau de Guendar, au niveau du Sénégal, on pense que le gouvernement mauritanien a pensé ne plus donner ses licences de pêche parce qu'ils ont leur fils professionnel maintenant en pêche. Donc c'est pourquoi eux, ils ne veulent plus maintenant donner ses licences de pêche à ces pêcheurs guendariens qui souvent, selon eux, pillent leurs ressources. Donc eux, ils ne peuvent pas maintenant continuer à donner des licences de pêche à des pêcheurs sénégalais qui prennent leurs ressources et les ramener au Sénégal.
Mais pourquoi ces pêcheurs de Saint-Louis tiennent-ils à aller en Mauritanie? Le Sénégal dispose quand même de 700 km de côte.
Bien sûr, 700 km de côte sans ressources halieutiques, c'est rien du tout. Vous savez, la côte mauritanienne est poissonneuse. C'est pourquoi souvent les pêcheurs guendariens préfèrent partir en campagne en Mauritanie que de rester ici au Sénégal. Parce que souvent, comme on le dit dans le milieu des professionnels de la mer, ici au Sénégal, notre mer est une mer désertique. Il y a plus de 8000 embarcations ici. Vous pensez que ces 8000 embarcations peuvent aller pêcher ici à Saint-Louis?
Et vous avez vu des pêcheurs sénégalais qui commencent à rentrer au Sénégal?
Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu des pêcheurs qui ont traversé la frontière. Donc, ils étaient presque une dizaine. Mais on nous a dit que depuis maintenant quelques jours, près de 450 pêcheurs ont traversé la frontière sénégalo-mauritanienne pour revenir.
Le journaliste sénégalais Moussa Diagne, joint à Saint-Louis, au Sénégal. Afrique centrale maintenant. Au Gabon, les autorités ont annoncé hier des sanctions contre les enseignants grévistes au lendemain de marches de protestation d'étudiants. C'est lors d'une conférence de presse que Alain-Claude Bilibinze, porte-parole du gouvernement, a annoncé la suspension de la solde de 807 enseignants du primaire et du secondaire. RDC, Reporters sans frontières, a appelé mardi au respect du droit d'informer au Kasaï, région enclavée du centre du pays. Théâtre de violences meurtrières depuis plusieurs mois, le Kasaï central est l'épicentre de la rébellion Kamouina-Nsapu qui déstabilise les trois provinces du Kasaï depuis septembre. Les violences dans la région ont fait au minimum 200 morts depuis cette date. Et pour terminer, en Angola, la ministre portugaise de la Justice a reporté mardi une visite en Angola à la demande de Luanda. Le report inédit de cette visite intervient alors que le vice-président angolais Manuel Vicente a été mis en accusation jeudi dernier par la justice portugaise qui le soupçonne d'avoir payé 760 000 euros à un procureur pour que ce dernier classe sans suite deux enquêtes le visant en 2012. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.